Vous écoutez RTL.
Il est 18h. RTL Soir, Vincent Parisot.
Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos. C'est donc RTL Soir avec à la une, outre la tempête bien sûr, le grand bond en avant de l'opinion sur les questions de bioéthique. Un sondage IFOP pour La Croix révèle que les Français sont aujourd'hui à 90% favorables à la légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté. Mais l'étude montre aussi qu'une majorité est favorable à la PMA pour les femmes célibataires ou les couples de femmes homosexuelles et même à la GPA, les mères porteuses pour raisons médicales. On parle de tout ça dans 20 minutes avec l'ex-ministre à la famille, Dominique Bertinotti. RTL Soir, première édition, c'est avec vous Céline Landreau, bonsoir.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Et donc les autres titres.
Un mort et une quinzaine de blessés, premier bilan du passage de la tempête Eleanor qui s'abat sur la France. Un skieur a été tué par la chute d'un arbre dans la station du Morillon en Haute-Savoie, les Alpes, où les autorités appellent à la prudence cette nuit et demain. Nous serons en ligne avec le sous-préfet de Bonneville dans ce journal. Les premiers vœux d'Emmanuel Macron à la presse. Le président vient de commencer à s'exprimer après une journée intense pour l'exécutif. Des taxes antisémites sur un hypercacher de Créteil, 3 ans après l'attentat de la porte de Vincennes qui avait suivi celui de Charlie Hebdo. Et puis le PSG de retour à l'entraînement 4 jours seulement avant la reprise face à Rennes. La bourse de Paris termine en nette hausse ce soir, plus 0,81%. Le CAC 40 s'établit à 5331 points. Et puis les courses à Pau, il fallait jouer le 8, le 9, le 11, le 5 et le 15.
À la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité après les interrogations de Charlie Hebdo. On verra qui paie quoi lorsqu'on veut être protégé. Dans la foulée, donc, l'invité d'RTL Soir, Dominique Bertinotti. Puis direction les coulisses de l'actu. En pleine tempête, on sera avec les équipes d'Enedis qui réparent les lignes EDF après le passage d'Eleanor. À 18h30, on retrouvera Alain Duhamel pour son éclairage politique. À 18h35, le créateur et vendeur du vélo qui fait fureur, gros pneus, large guidon, moteur électrique. C'est parce que le vélo a sauvé la vie de François Chevalier qu'il s'est lancé dans cette aventure. Il nous dira pourquoi. À 18h50, RTL Monde, on ira à Rio de Janeiro où le stress dans la vie des favelas entre violence et terreur a de grosses conséquences sur la santé de ses habitants. Et puis à 19h15, comme chaque soir, on refera le monde avec aujourd'hui Jean-Christophe Buisson, Denis Tillina, Christian Menanteau et Françoise de Gouala. La météo, Patricia Charbonnier, évidemment, elle est très venteuse et la tempête Eleanor va souffler de plus en plus fort dans le sud-est.
Oui, le vent s'est accéléré comme prévu en Méditerranée. Eleanor souffle en tempête et va souffler toute la nuit. On a toujours 25 départements placés en vigilance orange. Alors pour plusieurs phénomènes météo, attention, ces vents violents vont souffler toute la nuit dans le sud-est en particulier, sur la Corse particulièrement exposée puisqu'on attend des rafales à 180-200 km/h sur le Cap Corse. Vent tempétueux également en montagne avec en plus un risque d'avalanche à son maximum de 5 sur 5 sur les Hautes-Alpes, la Savoie et la Haute-Savoie. Et donc toujours en liaison avec cette tempête, on a toujours un risque de vague submersion sur le littoral de la Manche, sur le littoral atlantique et des crues et des inondations. Toujours sur le département de la Gironde, l'Eure, la Seine-Maritime et sur la Franche-Comté et notamment sur quelques départements alpins puisqu'à partir de cette nuit, on attend un très net redout. La limite pluie-neige va remonter à 2000 mètres. Donc des conditions météo qui seront très mauvaises jusqu'à demain soir dans les Alpes. Avec en plus une nouvelle perturbation océanique qui va apporter beaucoup de pluie demain sur une bonne partie du pays, toujours dans la douceur.
Merci Patricia, on vous retrouve évidemment à 18h30 alors qu'Eleanor, vous venez de le dire, continue de balayer le sud-est du pays ce soir. On a donc un premier bilan. Un mort, une quinzaine de blessés et d'importants dégâts matériels, Céline.
Oui, 25 départements, Patricia vous le disait, sont toujours en vigilance orange. 110 000 foyers privés d'électricité. Les pompiers, eux, sont intervenus plus de 4 000 fois. Et l'on déplore un mort, un skieur de 21 ans, tué par la chute d'un arbre dans la station du Morillon, en Haute-Savoie, en Autouche.
Oui, le jeune homme skiait sur la piste verte Marvel, accompagné de 2 autres amis. Et vers 12h30, plusieurs sapins tombent sur la piste, poussés par de violentes rafales de vent. Le skieur de 21 ans est touché, ses 2 autres amis sont indemnes. Rapidement prévenue, l'antenne d'Annecy du peloton de gendarmerie des Hautes-Montagnes de Chamonix a procédé à l'intervention de secours avec l'aide des gendarmes de Samoëns, mais ils ne peuvent que constater le décès du skieur. Le jeune homme de 21 ans était dans cette station de Haute-Savoie pour les vacances. À Morillon, pourtant, la tempête Eleanor avait été anticipée, même si le domaine était pourtant bien ouvert ce matin, mais seulement avec quelques pistes en bas de la station et uniquement quelques remontées mécaniques. Il y a encore quelques jours, le maire avait interdit le hors-piste par arrêté municipal en raison de fort risque d'avalanche. Une enquête de gendarmerie a donc été ouverte verte après ce drame dans la station.
Merci beaucoup Arnaud Touche. Alors on devrait avoir, espérons-le, d'ici quelques minutes, le sous-préfet de Bonneville en Haute-Savoie, parce que effectivement la tempête continue de frapper la montagne. Cela dit, avant de frapper les Alpes, Éléonore est passée par l'ouest du pays.
Et les images là aussi sont saisissantes. Des bateaux projetés sur des parkings à Étretat, par exemple. Les dégâts sont impressionnants sur la côte normande, Frédéric Veil.
Oui, il n'y avait pas un temps à mettre une mouette dehors hein, cet après-midi au moment de la marée haute où à Étretat, des vagues de plus de 4 mètres sont venues fracasser les digues, disperser des galets un peu partout en centre-ville. Franck Cotard est conseiller municipal et ancien maire de la cité balnéaire.
L'eau a pénétré dans les rues, c'est vrai que c'est un peu apocalyptique quand on voit le paysage d'après la tempête. On était impressionnés, pendant, avec des vagues qui allaient jusqu'à 5 mètres et qui ont pénétré, qui ont dévasté un peu notre front de mer. Et bon, des dégâts matériels, heureusement pas d'autres dégâts plus sérieux. Maintenant, il va falloir retrousser les manches pour réparer tout ça.
Et puis, un peu plus tard dans l'après-midi, les marées se sont aussi fait ressentir dans la vallée de la Seine où le fleuve a débordé jusqu'au pied de la maison de Martine à Côte-Bécancour.
C'est la première fois même, quand il y avait eu la marée du siècle, ça n'avait pas été aussi haut. Donc voilà, pas inquiète. Je me dis, on verra bien. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire si ça déborde, ça déborde.
Et ça a bien débordé, mais en amont ou en aval de Rouen, l'heure est maintenant à la décrue. En attendant la prochaine marée prévue la nuit prochaine.
Le reportage de Frédéric Veil en Normandie pour RTL. Le trafic aérien a lui aussi été perturbé dans plusieurs aéroports aujourd'hui. Les difficultés pourraient d'ailleurs persister jusque tard ce soir à Nice et en Corse.
Alors, retour à la montagne. On vous le disait, les autorités appellent à la plus grande prudence sur les massifs des Alpes. Et nous sommes en ligne avec le sous-préfet de Bonneville en Haute-Savoie, Bruno Charlot. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. On vient de parler de ce drame, la mort de ce skieur à la station du Morillon. Quelles sont les explications à cet accident? Est-ce qu'on sait, par exemple, si toutes les précautions avaient été prises?
Alors que les précautions ont été prises, je dirais qu'à ce stade, personne n'en doute. Mais évidemment, l'enquête de gendarmerie qui est en cours permettra d'établir de manière certaine les circonstances du drame. Car vous l'avez dit, il s'agit bel et bien d'un drame dû à un hasard malheureux aussi.
C'est-à-dire un hasard malheureux?
Bien, comment dire, un jeune de 21 ans qui se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment, alors que la station est en cours de fermeture par rapport à la météo, mais évidemment, il faut permettre aux gens qui se trouvent encore sur les points hauts de rejoindre la vallée. Et dans ce contexte-là, au moment où le jeune passe à proximité d'un bosquet sur une piste balisée qui permet encore aux gens de redescendre vers le fond de vallée, une brusque rafale de vent fait tomber plusieurs arbres qui touchent le jeune et qui ne survivra pas à ses blessures. On est vraiment sur un drame, un vrai drame, oui.
Mais est-ce qu'il aurait fallu fermer les stations plus tôt? Est-ce que c'était la recommandation des autorités d'ailleurs?
Alors après, vous savez, chaque gestionnaire de domaine skiable se détermine en fonction des circonstances. Les fermetures de stations se font en général du haut vers le bas, car le vent s'annonce en général bien plus violent en haute altitude que plus bas dans la vallée. Et c'était ce qui était en train d'être mis en place à Morillon, comme d'autres stations l'avaient fait avant, y compris dans le même massif, le Grand Massif en l'occurrence, vu qu'on parle de ce magnifique domaine skiable.
Alors, Patricia Charbonnier nous le disait, un autre danger se profile avec le redoux demain et un risque d'avalanche particulièrement élevé. Là encore, quelles sont les mesures prises? Est-ce que vous avez, vous, un message à faire passer aux vacanciers ce soir?
Alors, bien sûr, un appel à la prudence, un appel très fort à la prudence, un appel très pressant. Il y a toujours des gens qui pensent être plus malins que d'autres et qui, hélas, se font prendre. Et on met en plus la vie des sauveteurs en péril ensuite. Donc demain, les circonstances s'annoncent extrêmement défavorables en montagne. Chaque gestionnaire de domaine skiable aura apprécié demain, sur le secteur dont il a la charge, le risque d'avalanche et voir quelle partie du domaine préserver ou qu'il pourra sécuriser, il pourra peut-être ouvrir. Évidemment que toute démarche hors piste semble, comment dire, tellement stupidement énorme, je dis cela comme ça, il faut appeler parfois le bon sens des gens, je veux croire que personne ne s'y risquera demain. Car demain, effectivement, compte tenu des cumuls de pluie qui vont s'abattre sur des épaisseurs de neige importantes parfois, on peut s'attendre à des coulées de neige importantes descendant bas dans les vallées, pouvant concerner des axes routiers, pouvant concerner même des secteurs habités. Donc demain matin sera particulièrement critique. Ce n'est pas pour rien que le préfet de Haute-Savoie a d'ailleurs demandé la mise en place d'un centre opérationnel de montagne, départemental, pour suivre au mieux les événements et prendre les mesures préventives indispensables.
Donc un appel à la prudence, pas de prise de risque demain, on l'a bien entendu. Merci beaucoup Bruno Charlot d'avoir été en ligne avec nous dans RTL Soir. Je rappelle que vous êtes sous-préfet de Bonneville en Haute-Savoie.
RTL Soir.
Alors que l'on commémorera dans quelques jours les 3 ans des attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère, des inscriptions antisémites ont été découvertes ce matin à Créteil.
Des croix gammées taguées sur 2 magasins de la communauté juive. Mourad Djabari, sur place, les habitants ont du mal à comprendre un tel acte.
Oui, ce sont 5 croix gammées peintes sur les rideaux métalliques de ces 2 magasins cachers du centre commercial. Des croix énormes, 1,50 m peintes à la peinture rouge cette nuit. Les clients que j'ai rencontrés sont tous très choqués. Ils se disent encore une fois pris pour cible à quelques jours de la triste date anniversaire de l'attaque de l'hypercachère de la Porte de Vincennes. La mairie Créteil a fait le nécessaire pour effacer dans la matinée au plus vite ces croix gammées sur les 2 magasins. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a fermement condamné cet acte et apporte son soutien à la communauté juive.
Mourad Djabari à Créteil pour RTL. Gérard Collomb qui recevra le 10 janvier les syndicats de policiers, des agents qui avaient manifesté hier après l'agression de 2 de leurs collègues à Champigny-sur-Marne au cours de la nuit de la Saint-Sylvestre. Par ailleurs, le parquet de Créteil a ouvert une enquête pour déterminer les conditions d'organisation de cette soirée qui avait dégénéré. Enquête ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui et ouverture au public d'un établissement sans autorisation.
Allez, très courte pause et dans un instant, une journée chargée pour le gouvernement et pour Emmanuel Macron qui présente en ce moment ses vœux à la presse.
RTL Soir avec Vincent Parisot et la suite du journal de Céline Landreau.
Emmanuel Macron présente donc en ce moment ses vœux à la presse. C'est une rentrée dense pour le président aujourd'hui.
Oui, le chef de l'État présidait le Conseil des ministres ce matin. Conseil des ministres suivi d'un séminaire gouvernemental. Un moyen, Dominique Tenza, de maintenir les ministres sous pression.
Oui, d'ailleurs, c'est déjà le 4e séminaire organisé par l'équipe d'Edouard Philippe. Le Premier ministre très friand de ce type de réunion qui permet d'abord de ressouder une équipe, ensuite de se coordonner les uns avec les autres. Et puis, enfin, et peut-être surtout, c'est ce genre de rencontres qui permettent au président et au Premier ministre de maintenir la pression sur le gouvernement et de faire passer quelques messages. Pas question de se relâcher, résume à la sortie Édouard Philippe.
Il ne s'agit pas de faire une pause, il ne s'agit pas de se dire que l'essentiel a été fait. Au contraire, nous avons encore beaucoup de pain sur la planche et nous devons atteindre l'objectif qui a été fixé par le président de la République, c'est-à-dire le respect des engagements pris par lui auprès des Français.
Respecter les engagements et accélérer encore un peu plus le rythme des réformes en 2018, avec dès ce mois-ci plusieurs gros dossiers chauds, projet de loi immigration, décision attendue sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, abaissement de la vitesse à 80 km/h sur les routes nationales, autant de décisions pas forcément populaires dans l'opinion, de quoi faire tanguer l'exécutif. Mieux valait donc resserrer les rangs avant d'ouvrir une séquence potentiellement mouvementée.
Merci Dominique Tenza du service politique d'RTL. Dominique qui vient de nous le dire, donc l'heure est aux dernières tractations dans le dossier de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Édouard Philippe recevra les élus locaux vendredi.
Le gouvernement s'est engagé à prendre une décision d'ici la fin du mois de janvier, et cela alors que le rapport des médiateurs remis en décembre a laissé entrevoir un possible abandon du projet d'aéroport. Dans ce cas, c'est l'aéroport existant Nantes-Atlantique qui serait agrandi. Chaque camp viendra donc plaider sa cause en fin de semaine à Matignon. Jean-Claude Lemasson, maire de Saint-Aignan-de-Grand lieu tout près de Nantes Atlantique est favorable au nouvel aéroport. Il craint de ne pas être entendu.
On peut recevoir les élus du territoire, mais pour leur dire quoi ? Pour leur dire ça y est, le choix est fait. Et s'il n'a pas encore été opéré, est-ce que notre avis va compter ? Puisqu'on vient nous voir en fait en dernier. On aurait aimé être reçu en premier avant les médiateurs pour expliquer effectivement de quelle manière les choses s'organisaient. Les dés ne sont pas jetés. Je pense que le chef de l'État et son Premier ministre ne savent pas trop encore où ils en sont au regard de ce projet. Je ne parle pas de l'évacuation des Zadistes où là c'est très clair. Je pense qu'ils ont besoin encore d'entendre. Donc eh bien, on va leur répéter ce qu'ils devraient savoir déjà.
Jean-Paul Naud, maire de Notre-Dame-des-Landes et opposé au transfert de l'aéroport dans sa commune, reste lui convaincu que la décision n'est pas encore prise.
Ils continuent la concertation, peut-être pour affiner leur décision, peut-être que leur décision n'est pas complètement prise aujourd'hui. Si la décision était déjà prise, ils n'auraient pas fait toutes ces réunions de concertation avec les élus. Donc je pense qu'ils sont toujours dans la recherche de la meilleure solution possible. Moi, je ne veux pas faire de pronostic, encore une fois. J'attends vraiment la décision du président de la République.
Voilà, des réactions qui ont été recueillies pour RTL par Patrice Gabart.
Et après les élus de Loire-Atlantique, le Premier ministre recevra le 22 janvier les élus nationalistes corses. Une première rencontre après la prise de fonction de ces nouveaux élus de la super collectivité insulaire hier.
On vous le disait à la une, les Français sont donc de plus en plus libéraux sur les questions de bioéthique.
C'est l'enseignement d'un sondage IFOP publié par le journal La Croix aujourd'hui. À 15 jours de l'ouverture des états généraux de la bioéthique, on y apprend notamment, Odile Pouget, que 9 Français sur 10 sont favorables à une évolution de la loi sur la fin de vie.
Oui, et parmi ces Français qui jugent ce changement nécessaire, 47% pensent qu'il faut légaliser l'euthanasie, c'est-à-dire la possibilité pour un patient souffrant d'une maladie incurable de demander à un médecin de mettre fin à ses jours. 18% se prononcent également pour le suicide assisté. Cela signifie qu'une personne pourrait fournir un produit létal permettant à celui qu'il souhaite d'abréger ses souffrances. Seuls 11% des Français estiment qu'il ne faut pas toucher à la loi actuelle. Une évolution forte donc, qui se retrouve aussi sur les questions concernant le début de la vie. 64% ainsi disent oui, par exemple, au recours aux mères porteuses, en grande majorité pour des raisons médicales. 60% se déclarent favorables à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, les célibataires et les femmes en couple. Au début des années 90, ces Français étaient 3 fois moins nombreux à défendre cette ouverture. Les seuls sujets auxquels il ne faut pas toucher dans cette enquête, à 90 et à 85%, c'est la gratuité des dons et l'anonymat des donneurs.
Voilà, décryptage de cette étude signée Odile Pouget pour RTL et on va en reparler donc dans quelques minutes avec l'ancienne ministre déléguée à la famille, Dominique Bertinotti. Ils avaient prolongé leurs vacances d'une journée, hein, les joueurs du Paris Saint-Germain, mais tout a une fin et donc ils sont rentrés cet après-midi.
Oui, retour au camp des loges sous les bourrasques de vent, changement de décor pour les stars parisiennes qui avaient passé pour la plupart des fêtes au soleil et qui affronteraient dans 4 jours seulement Nicolas Georgerot.
Oui, changement brutal dans le vent entre 2 averses, des berlines et des gros cylindrés qui arrivent peu à peu. Il est 15h, l'entraînement à huis clos est prévu une demi-heure plus tard. Rabiot et Kurzawa sont parmi les derniers. 15 supporters, souvent en famille comme Patrick, sont venus tenter d'apercevoir les joueurs.
C'est assez bref, ouais. très bref même. Un peu trop à mon goût, mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Et c'est plus que du courage par ce temps. Ouais. Ils ne nous le rendent pas tellement par contre. Hein.
Verratti, comme les autres, ne s'arrêtera pas. Quelques instants plus tard, en tenue sur le terrain, Neymar est le plus couvert de l'effectif. Bonnet, écharpe, on aperçoit à peine ses yeux. Unai Emery s'est adressé au groupe durant 3 minutes avant la séance. Remobiliser tout le monde. Pour Bruno, le club parisien prend un risque en reprenant si tard.
Moi, je trouve que c'est pas une très bonne chose parce que même si on a un effectif garni, de reprendre si tard avant un match de Coupe de France, il faut garder à l'esprit que chaque entraînement est important. Ça peut être un piège. Et après, il faut faire attention à Rennes parce que Rennes est capable aussi de nous battre. On va tomber dans le piège, quoi, tout simplement.
Vite se remettre dans le bain, d'autant que les Rennais sont revenus sur les terrains dès jeudi dernier.
Nicolas Georgerot du service des sports d'RTL.
Et puis en rugby, on connaît désormais les noms des adjoints de Jacques Brunel, le nouveau sélectionneur du 15 de France. 3 anciens internationaux, Sébastien Bruno, l'entraîneur adjoint de Lyon, mais aussi Jean-Baptiste Elissalde et Julien Bonner l'accompagneront donc sur le banc des Bleus.
Merci Céline, vous revenez à 18h30.
Je serai là, à tout à l'heure.
Vous écoutez RTL.